Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Eh bien, rebonsoir à toutes et à tous. C'est Idées Noires, comme tous les mercredis de 20h à 21h. Donc, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et ce soir, bon, on est un petit peu en force puisqu'on est quatre.
Ouais, c'est bien. Et on est que deux pour le moment, mais je pense que ça va arriver après. Tranquillement. Voilà. Donc, on va démarrer l'émission. Pas trop d'annonces à vous donner, du coup, pour cette émission. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. On va faire 100. On va quand même vous rappeler, comme on le fait à chaque début d'émission, si vous souhaitez nous rencontrer, venir papoter. Donc, il y a un lieu pour ça. Enfin, du coup, nous sommes, que nous autogérons, qui s'appelle La Plume Noire, donc, est une librairie libertaire, qui est ouverte les mercredis de 17h à 19h, voire 19h30, parce qu'après, on va à la radio. Et le samedi de 15h à 19h. Donc voilà, c'est vraiment le moment, si vous voulez, vous pouvez aussi nous contacter par mail si vous le souhaitez, hein, c'est groupe-lyon@c-g-a.org. Mais si vous voulez, voilà, nous rencontrer directement, n'hésitez pas à passer lors des permanences de la librairie, regardez aussi les bouquins, parce que c'est ce qui fait aussi tourner le lieu. Et voilà, on a une bibliothèque, on a plein de tracts, de prospectus, etc., etc. Donc n'hésitez pas à passer. Voilà, si vous nous suivez aussi sur le net, on a un site internet, c'est cgalyon.ouvaton.org, comme ça s'entend. Voilà, on trouve une petite page Facebook et un Twitter aussi, voilà, donc vous pouvez nous suivre un peu de partout. N'hésitez pas à passer quand même, c'est quand même mieux de parler en réel lors des permanences, surtout on a le temps de le faire à ce moment-là, donc c'est vrai que des fois sur les rassemblements, les manifs, on est un peu speed, on est un peu dans l'action, donc c'est un peu compliqué, donc n'hésitez pas à passer pendant les permes. Et pendant que je suis, je vais faire un petit rappel, alors on l'a fait la semaine dernière, mais il y a un peu de nouveau, donc on va refaire un petit point sur notre fonctionnement, il y en aura pour 2 minutes. Voilà, je vous ai expliqué la semaine dernière qu'on fonctionnait la CGA Lyon par front de lutte, voilà, à savoir qu'on était sur plusieurs fronts de lutte, qui était donc le front de lutte antipatriarcal, antiraciste, syndical, avec aussi une commission jeunesse. Et voilà, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, venir donc ces commissions, puisque elles ne sont pas réservées aux adhérents et aux adhérentes de la CGA, mais bien aussi aux sympathisants et sympathisantes. Donc vous pouvez voir un petit peu comment on fonctionne, ce qu'on raconte, ce qu'on a comme mode d'action, mode d'intervention, etc., etc. Et ensuite, si vous souhaitez, bien évidemment, rejoindre la CGA. À rappeler, du coup, parce qu'on va faire un petit truc un peu spécifique ce dimanche à 16h à la Plume Noire, si vous souhaitez venir passer à la Plume Noire au 8 rue Diderot, à savoir qu'on va faire une petite rencontre, une présentation, pardon, du groupe, du lieu et de toutes les commissions. Donc voilà, après, ça permettra de discuter en direct, de voir un petit peu ce qui peut vous aller à vous. On a récupéré pas mal de contacts là à la fac et ailleurs aussi. Et du coup, voilà. Donc, si vous voulez passer, ça sera ce dimanche à 16h à la Plume Noire, au 8 rue Diderot. Vous venez, en plus, comme ce sera l'heure du goûter, vous pouvez venir avec un petit truc à bouffer si vous le souhaitez. Voilà, ce sera un moment un peu, voilà, informel, convivial. Voilà, histoire de vous présenter donc le lieu, le groupe et les commissions et voir un peu après si vous voulez vous investir, comment vous pouvez le faire. Donc, ce dimanche à 16h. Donc, voilà pour le petit point présentation. On va faire une petite mise à jour par rapport à la semaine dernière. On avait fait un bon point sur les migrants et les migrantes, avec toute la problématique européenne qui joue, les problématiques aussi en France. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y avait, il y avait eu un premier rassemblement le 6 septembre, place de la Comédie. S'en est suivi, du coup, une rencontre entre plusieurs orgas, assos, syndicats, etc., pour monter un collectif unitaire de soutien, de solidarité à tous les réfugiés, à tous les migrants et les migrantes. Et donc il en ressort du coup qu'il va bientôt avoir quelque chose qui va se préparer, donc on vous tiendra au courant, un texte va être écrit avec un appel à mobilisation plus tard. Surtout on voulait faire un petit retour parce qu'il y avait quelque chose qui avait été fait samedi dernier, donc il y a 4-5 jours là, sous les trompes d'eau, voilà, donc c'était un rassemblement au départ à l'appel de Forum Réfugiés, Secours Catholique et d'autres assos, la CIMAD je crois aussi il me semble, et du coup le collectif unitaire avait décidé du coup de pas faire un deuxième rassemblement ailleurs ou une manifestation ailleurs, on trouvait ça un peu bête, on pensait que les gens n'allaient pas comprendre, et donc on avait décidé d'appeler avec un autre texte sur le même lieu à la même heure. Voilà, il faut savoir que le texte des associations là qui avaient appelé au premier truc était assez minimaliste et dépolitisé, et donc il fallait quand même quelque chose de plus péchu, donc voilà, donc on avait repris un appel émanant de Toulouse notamment pour appeler à ce rassemblement. Donc malheureusement, il y a eu énormément de pluie hein, samedi. Vous êtes bien rendu compte que la météo n'était pas au rendez-vous. Voilà, il y a eu entre 400 et 500 personnes. Le problème, voilà, c'est que ça a été un peu trusté par certaines associations Forum Réfugiés qui a voulu faire un petit peu un stand voilà au OPS. Voilà, il y a même le maire qui devait venir normalement parler. Ouais, j'ai devait venir, mais il a eu un peu peur parce que je pense qu'il y a du monde qui était au courant qui devait venir. Donc il y avait pas mal de réclamations à lui faire, et comme ce monarque n'aime pas trop la foule, a peur des gens, a peur qu'on l'ouspille un petit peu, et du coup il a annulé sa venue. C'est une députée européenne à la place qui a parlé. Mais voilà, c'était très social-démocrate comme discours, et on était un peu perdu dans la masse là-dedans. Donc la prochaine mobilisation qui va être appelée très bientôt, voilà, sera à l'origine du collectif unitaire, et donc sera beaucoup plus péchu parce que les mots d'ordre, mine de rien, ce sera liberté d'installation, liberté de circulation et d'installation, ce qui n'est pas rien, avec la demande d'une régularisation de tous et toutes, la réquisition des logements vides également aussi, parce qu'il va bien falloir loger tout le monde. Là, l'État s'est engagé sur du peanut, hein, sur 24 000 sur 2 ans, étant donné qu'il y a environ 1 ou 2 millions de logements vides en France, donc il y a quand même de la place à faire pour tout le monde, y compris pour ceux qui dorment dehors toute l'année. Donc voilà, donc on espère que ça va se bouger, qu'il y aura des mouvements en France, des mobilisations qui vont ressembler un peu à ce qui se passe en Europe. On avait vu à Londres, hein, à Copenhague, en Allemagne, il y a quand même des grosses manifs en soutien en anglais aux réfugiés. Nous, on dirait peut-être plutôt aux migrants et aux migrantes, parce que du coup, ça englobe un peu plus de monde. Donc voilà. Donc on va vous tenir au courant par rapport à tout ça. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que sur l'émission de la semaine prochaine, il y aura sûrement un point qui sera fait. Donc il y aura toute une partie féministe avec notre camarade que vous n'avez pas entendu depuis le début de l'année, qui n'est plus sur Lyon, mais qui viendra pour l'émission de la semaine prochaine. Et une autre partie sûrement avec des interviews un point sur la situation qui est à Vintimille. Avec notamment, il y avait des rencontres internationales là, le week-end dernier. Des camarades y sont allés, sont revenus avec plein de trucs à dire. Donc il y aura sûrement voilà ces deux thèmes principaux pour l'émission de la semaine prochaine. Et on vous tient forcément au courant sur tout le reste. Donc voilà, pour cette petite page, ce qu'on voulait faire éventuellement, c'est de faire une petite pause musicale avant de laisser la parole à d'autres voix. Donc on va partir là-dessus, on branche le petit MP3 et c'est parti. Donc bon, on vous refait un canaille hein, comme la semaine dernière, désolé, on verra à partir de la semaine prochaine, c'est promis. Donc la canaille avec mon camp, c'est parti.
Pas connu la prison. On m'a jamais enfermé, privé d'horizon. Pas connu les coups en garde à vue, leurs humiliations. Non, j'ai pas connu short d'abus. Pas connu les drogues dures, seul besoin de plier qui te torture. Pas connu la faim, n'avoir plus toi, plus que soi. Mendier pour un bout de pain. Pas connu la DAS, les feuilles d'accueil, les parents chômage alcooliques qui me tabassent. Pas connu les sections garage, l'échec scolaire comme seul bagage. Pas connu le travail à 10 ans, Jack c'est épuisant, mais un stage là c'est tuant. Pas connu le travail à 10 ans, Jack c'est épuisant, mais un stage là c'est tuant. Sans pouvoir exister, pas connu la prostitution, vendre son corps à un porc qui assouvit ses pulsions. Pas connu la condition de beaucoup de femmes chez moi, esclaves des hommes, sans compter tous les droits. Pas connu les embrouilles de business, la spirale infernale qui les ferme dans ma tête. Pas connu l'huissier de justice, qui a le droit de tout prendre et de faire plonger dans les abysses. Pas connu la déchéance d'une famille, sans face aux créances de leur putain d'échéance. Pas connu ce qui mène à style et veine, et passer à l'acte sous le poids de la peine. Pas connu ce qui mène à style et veine, et passer à l'acte sous le poids de la peine. Pas connu tout ça et pourtant j'aurais pu. Je viens de là-haut, on vit tous en sursis de là-haut. On n'est jamais à l'abri de là-haut. On est les premiers à tomber, les premiers à payer, les premiers sacrifiés. Mon camp est pauvre, on l'exploite. Mon camp est jamais... jamais pas trop dans sa boîte. Encore, il a perdu le sommeil. Tellement de temps qu'il passe, plein dans les frais. Encore, n'a pas le relais de moyen. Dans mon camp, soit t'excelles, soit tu vaux rien. Mon camp, d'encaisser jusqu'au bout. Jusqu'à ton tien, prouver jusqu'au cou. Mon camp, c'est un volcan qui dort. Mon camp, où il est tout sauf mort. Mon camp, quand il descend dans la rue, il sème la panique, elle fait pâlir les élus.
Et voilà, merci la canaille. Donc toujours sur Idée Noire, donc l'émission de la coordination des groupes anarchistes sur le 102.2 de Radio Canu, et on va passer à une autre.
On va passer à une autre voie maintenant. On va faire un petit point sur la situation en Turquie, notamment à Cizre. Enfin, vous êtes sûrement peut-être pas au courant d'ailleurs sur ce qui s'est passé tout l'été ou ce qui se passe en ce moment là-bas. Donc on va faire un petit point parce que ça paraît très important. C'est de pire en pire, on va dire, en Turquie. Vous pouvez y aller, oui, allez-y, je vous en prie.
Alors, c'est bon. À moins d'avoir vécu dans une grotte, sans aucune méchanceté pour les gens qui vivent dans des grottes, hein, vous savez qu'en Turquie, c'est un petit peu le bordel en ce moment. Alors, pour faire un résumé rapide, depuis les attentats de Suruk, qui ont été attribués par le gouvernement turc à Daesh, sans que Daesh ne revendique jamais l'attentat, une guerre est en train de rééclater.
Faites juste un tout petit point sur ce qui s'était passé. C'était un rassemblement, du coup, de jeunes révolutionnaires qui souhaitait repartir sur Kobané, ça pour aider à la reconstruction,
une école
en Kobané. Donc il y avait tout un rassemblement qui avait été organisé, du coup, et pendant le rassemblement, donc on voit les gens poser avec leur banderole, etc. Et tout d'un coup, donc une explosion. Un gars qui fait péter un truc, donc avec
32 morts, je crois, dont plusieurs anarchistes, puisque du coup c'était appelé par un mouvement de jeunesse socialiste, des vrais socialistes pour cette fois-ci. Mais du coup il n'y avait pas que des socialistes là-bas, des communistes, des anarchistes.
Donc voilà pour le petit point sur ce qui s'est passé. Pardon, désolé, excusez-moi.
Pas de souci.
Comme tout le monde n'est pas forcément au courant.
Mais tu as bien fait pour nos amis qui vivent dans des grottes. Donc cet attentat à Suruk, et du coup. La responsabilité du gouvernement a très vite été pointée par les organisations révolutionnaires turques et kurdes, donc le TKP-MLE, le DHKPC, etc., et évidemment le PKK. Et il y a eu plusieurs guérillas, plusieurs attentats qui se sont relancés, et la répression turque face à ça est extrêmement féroce. C'est-à-dire qu'il y a des zones d'exception, des villages qui sont rasé en fait par l'armée turque. On demande aux habitants de partir dans les grandes villes, dans les trucs comme ça, pour vider les zones autour des montagnes et des zones de guérilla. C'est des trucs qui s'étaient pas vus depuis des dizaines d'années, quand la guerre battait encore son plein.
Plus des années 80, enfin,
les années 80. Les années 90, alors j'osais pas dire de bêtises. Et du coup, le contexte est très très chaud en Turquie. Donc il y a les luttes évidemment de guérilla, donc notamment Istanbul, les quartiers entiers qui sont en ébullition, et c'est pas des émeutes à la française, hein, c'est des émeutes à la turque, avec des coups de Kalachnikov échangés avec la police, etc. Il y a aussi des bons mouvements sociaux. Il faut dire que en Turquie, c'est pas vraiment génial pour la condition des travailleurs et des travailleuses. Pour l'anecdote, au début du mois d'août, on recensait déjà 971 travailleurs qui avaient perdu la vie. Donc c'est plus de 50 une augmentation de plus de 50 en 3 ans en fait. Donc c'est assez violent. Il y a pas mal de mouvements aussi au niveau féministe. Alors j'en parlerai pas trop, peut-être que notre camarade de la semaine prochaine en parlera plus. Mais pour l'anecdote rapide, pour montrer quand même que la lutte ça paye, une femme qui avait tué son mari, qui la battait régulièrement, vient d'être libérée grâce à la pression des camarades de Turquie. Donc voilà, la lutte paye. Vous avez peut-être entendu parler de ce qui se passe aussi à Cizre. Alors Cizre, c'est une ville à majorité kurde, dans un canton à majorité kurde de Turquie. Et Cizre est encerclé par l'armée turque depuis quelques semaines, avec 24 morts depuis, avec des snipers posés sur les toits et une grosse guérilla qui s'organise. Alors c'est soi-disant pour traquer les milices du PKK, mais a priori, enfin de toute façon, c'est que des civils qui se font tuer, et c'est les civils qui organisent leur autodéfense. Du coup, voilà, c'est super intéressant. Alors, il faut savoir qu'en Turquie, vous pourrez vous renseigner sur un peu plus sur des sites comme Nouvelle Turquie ou comme Kurdistan News, etc. Mais en Turquie, il y a plusieurs villes dont les représentants ont déclaré l'autonomie vis-à-vis du gouvernement. Alors, évidemment, c'est un petit peu osé, on va dire, par rapport aux moyens de répression en face, mais c'est quand même hyper encourageant.
Forcément, ça plaît pas à Erdogan et compagnie.
Ça plaît pas à Erdogan. Voilà.
Et donc, d'où ces attaques répétées sur ces villes.
Voilà. Et du coup, donc, la situation à Cizre avait un petit peu évolué, parce que du coup, ils avaient réussi à... En tout cas, je sais pas s'ils avaient réussi à repousser l'armée, mais l'armée avait quitté la ville. Il y a eu des fêtes populaires, enfin, je vais vous en dire un peu plus après, et du coup, ils vont renvoyer une nouvelle armée, une armée spéciale Cizre, en gros, qui va être assez violente. Je vais vous lire un texte qui est paru aujourd'hui, si je ne m'abuse, sur Nouvelle Turquie. Voilà. Donc, Cizre, petite ville du Kurdistan turc de 132 000 habitants et habitantes, est toujours sous le feu de l'État. Victime de la guerre déclarée par l'armée turque contre le PKK, le peuple kurde résiste. Après avoir reculé il y a 4 jours et avoir vu les habitants et habitantes enterrer leurs 22 martyrs et célébrer leur victoire en se rassemblant par dizaines de milliers dans les rues, l'armée a réinvesti la ville. Cette fois, une armée spéciale est mise en place, comme en période de guerre. Mais encore une fois, il n'y a que des populations désarmées en face. À Sirnak, dans la province de Cizre, suite à l'interdiction de sortir dans les rues durant 8 jours, pendant lesquels 22 civils ont été massacrés, l'État a créé une armée spéciale pour Cizre. Le gouverneur de Sirnak, Ali Hissan Su, a demandé l'envoi de 50 tomas, ce sont des canons à eau. Et une petite seconde, j'ai un problème avec le texte. Donc 50 tomas, donc qui sont des canons à eau, 42 cobras, des véhicules de guerre blindés, 20 Ejder, donc ce sont des véhicules de guerre amphibie, 170 Shortland, donc des véhicules blindés, un hélicoptère, 3 drones, 60 Rangers blindés. Et en outre, 2 semaines avant, Ali Hissan Su a envoyé un courrier au ministère de l'Intérieur demandant l'envoi de 2000 policiers en renfort, ainsi que des bulldozers blindés armés qui ne se trouvent pas dans l'inventaire officiel de la police. En conséquence, rappelant que déjà 3566 policiers étaient en service dans la ville, le préfet Su demande l'envoi de 300 officiers dans les postes de police, 100 gendarmes mobiles et 700 commandos spéciaux. Dans le courrier, il est aussi demandé l'installation permanente de forces anti-émeutes à Uldudere et Beltüsebap et de forces spéciales à Cizre, Silopi et Idil. Les bulldozers blindés et armés qui se trouvent parmi les demandes ne sont pas répertoriés dans les équipements de la police. La police utilise les bulldozers blindés pour refermer les fossés de défense qui se trouvent dans les villes kurdes. On ne sait pas si ces bulldozers modifiés, voulus par le préfet, ont été envoyés ou non. Ailleurs, alors qu'il y a déjà 37 tomas dans la ville, le préfet de Sirnak a demandé l'envoi de 50 tomas supplémentaires. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est chaud bouillant. Et on espère que les camarades vont s'en sortir. Et je pense qu'il y aura pas mal d'appels à la mobilisation... d'ici pas longtemps, à Lyon, voilà, on vous en fera part.
Donc voilà, et puis on vous invite vraiment à aller voir, donc notamment sur site Nouvelle Turquie, donc il y a une page Facebook et qui est maintenant un site, hein, c'est ça, si je me trompe pas. Ou je dis une grosse connerie, je sais pas, non.
Pardon, tu peux répéter.
Vous ne m'écoutez pas. C'est très bien. Donc, je disais que Nouvelle Turquie avait une page Facebook et un site maintenant, c'est ça?
Tout à fait. Donc, voilà. Une page Facebook et un site, un blog, je ne sais pas.
Voilà. Donc, c'est beaucoup de traductions d'articles, en fait, de ce qui est écrit là-bas, mais ça aurait du coup d'être tenu au courant. Puis en plus, ce sont des camarades, enfin des gens fiables qui choisissent ces articles, qui les traduisent. Donc vraiment, les infos qui passent sur ce site-là et sur tes pages Facebook sont vraiment bonnes à prendre. Donc ouais, n'hésitez pas à partager, etc., 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 et à vous rendre sur ce site pour lire tout ce qui s'y fait.
Ouais.
Donc voilà. Je vais faire comme à la télé, sans transition aucune. Yeah. Donc du coup, on va passer à un autre sujet. Du coup, voilà, avec un camarade qui fait partie de la commission jeunesse, et donc du coup, qui vient nous lire un petit article sur
le plan Vigipirate.
Voilà. Eh ben, je t'en prie, c'est parti.
Donc le dispositif Vigipirate, on se l'accordera, possède un nom plutôt ridicule. Mais est-ce que ce dispositif sécuritaire est-il vraiment efficace en France? Donc tous les professionnels de la sécurité le disent, il n'est pas efficace. Donc, de toute façon, nous rappelons que tous les militaires que nous voyons dans les gares, les lieux touristiques sont inutiles. En effet, ils ne sont pas aptes à procéder à un contrôle d'identité et leurs armes ne sont pas chargées. Leur rôle est simplement une mesure de communication à grande échelle, sans aucune efficacité réelle. Elle sert à rassurer une population qui effraie les discours politiques et sécuritaires. Le dispositif, coûtant lui-même plus d'un million d'euros par jour, cela paraît difficile à prétendre que l'État français n'a pas les moyens d'accueillir les migrants ou de sauver les emplois des entreprises qui délocalisent. Historiquement, le plan Vigipirate trouve ses prémices dans la guerre d'Algérie, mais sa première manifestation en tant que telle voit le jour pendant la guerre du Golfe. D'exceptionnel à quasi permanent, cette pensée institue une forme de mise en état de guerre permanent, autorisant l'intervention du militaire dans la société. Les différents gouvernements vont, depuis les années 80, donc depuis la fin de la guerre d'Algérie, prendre des mesures appliquées dans leurs anciennes colonies, où la contestation était forte, et vont les appliquer dans le cadre de politiques sécuritaires et restrictives de liberté. On pourrait l'oublier, mais cette surcharge sécuritaire s'applique aussi dans les lycées et les universités. Les mesures prises par les chefs d'établissement sont obsolètes. Les lycées interdisent, sous la directive du ministère, les sorties et les entrées de l'établissement, en dehors des intercours. Cette restriction à la liberté de circulation pour une grande partie des lycéens est absurde et pourrit la vie de plusieurs milliers d'élèves, et ne peut éviter en aucun cas un attentat, car aux intercours, n'importe quelle personne peut entrer ou sortir. À Lyon 2, par exemple, l'université avait embauché un bon lot de vigiles pour contrôler et fouiller chaque étudiant rentrant. Ce dispositif, preuve que son ridicule et de sa politique vitrine ne s'appliquaient qu'au campus des quais et non à celui de Bron, bref, au campus des friquets. Dans le même temps, l'université ne trouvait pas l'argent pour payer les profs vacataires. En conclusion, ces lois et ces plans, censés lutter contre la sacro-sainte menace terroriste, ne fait qu'accentuer l'exclusion et l'augmentation des contrôles déjà trop nombreux des personnes racisées. Si l'État français veut vraiment lutter contre le terrorisme, qu'il sorte son nez du Moyen-Orient une bonne fois pour toutes.
Ok, merci, parce que du coup, enfin, ouais, quand on se bat dans les guerres, il y a un peu partout, de toute façon, quel que soit le niveau du plan Vigipirate, qui est là en rouge, noir, je ne sais pas combien, là, c'est tout le temps quelqu'un, et ça, effectivement, ça n'empêche rien du tout. Écoute, merci bien. Ce qu'on propose, ouais, qu'on fasse une petite pause musicale, et puis derrière, on partira sur un peu de lutte sociale. Du coup, pour le deuxième morceau, on va se mettre Zone Libre, avec, je ne sais plus, toujours les mêmes. C'est parti.
Qui mentent, qui misent en sport, les quotidiens, qui rentrent déplore. Mort du Jaguar, Mirador pour des corps.
Qui
toujours les mêmes.
Faites sonner la sirène.
Visez l'abdomen.
La France lui paraît.
Paris suffirait tous ces indigènes de la scène.
Faites sonner la sirène.
Visez l'abdomen.
La France lui paraît.
Paris suffirait tous ces indigènes de la scène.
Eh ben voilà, alors, ça y est.
Voilà, rebonsoir. Vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission donc, des militants et militantes de la coordination des groupes anarchistes. Et c'est bien sûr sur Radio Canu. Et donc, comme chaque semaine, on va se faire une petite rubrique lutte sociale.
Eh ben oui, il y en a. Et je vais reprendre un petit peu sur quelques luttes de juillet, de août, et puis on repassera donc au mois de septembre. Donc en juillet, il y avait une grève aussi sur les trains. Je dis aussi parce qu'il y en a eu tellement au mois de juillet. Une grève sur les trains Tello. C'est quoi les trains Tello? Bah, c'est la ligne tout simplement qui relie Paris à Venise, avec une grève de la part des travailleurs et travailleuses du prestataire LSG France assurant le service à bord. 58 personnes, soit 100% de grévistes pour le respect des obligations légales, rémunération, repos, congés, etc., etc. Donc la direction s'est empressée de confier le service non assuré à des cadres et intérimaires. C'est gentil. À Paris, avec une révolte fin juillet et une manifestation au pied de la basilique du Sacré-Cœur à Paris, on peut manifester où on veut. D'ailleurs, c'est partout, donc on peut le faire. Et le Sacré-Cœur, il est comme c'est un endroit comme les autres pour manifester. C'est une révolte des employés au nettoyage des latrines publiques. Alors les latrines, tout le monde sait ce que c'est. Hein, c'est les chiottes hein, publiques, tout simplement. Donc nettoyage qui a été remis gracieusement par la ville de Paris à un prestataire de service qui s'est empressé, comme une envie de pisser, de virer les plus âgés et les travailleuses les plus âgées et les moins instruites selon les grévistes. C'est gentil aussi. 12 personnes qui nettoyaient pour le précédent prestataire. Alors 12 qui sont jetées après 29 ans de bons et loyaux services. Et faux et sur, j'allais dire sur la tinette, mais enfin c'est un petit peu exagéré, donc ils sont sur le coup. 12 jours de grève, c'était au 31 juillet, avec donc également une manif devant l'hôtel de ville, dont l'habitante que tout le monde connaît, Anne Hidalgo, est proprio donc c'est de ces lavatories. Et aujourd'hui, le contrat est à la société Tellua, qui est une société hollandaise. Alors, ceci explique peut-être cela. Je pense que Hidalgo est quand même assez hollandaise. Passons maintenant à Alstom, donc la grosse boîte Alstom, des ouvriers qui tapent dans la caisse, mais pour la bonne cause, si on peut dire. Ils seront indemnisés pour avoir été exposés à l'amiante. Les prud'hommes ont sanctionné la direction de l'usine de Saint-Ouen dans le 93 par son conseil de Bobigny pour 54 salariés, dont ex-salariés. Ils recevront 5000 euros plus 500 euros pour frais de procédure pour avoir été exposés toute leur carrière au poison mortel. Alors chez EDF, c'est à peu près la même chose. C'est à Mont-de-Marsan, 95 employés qui seront donc indemnisés pour préjudice d'exposition fautive de la centrale d'Arjusanx, qui recevront donc de 1 000 à 14 000 euros de dommages et intérêts. Et bon, la différence des sommes explique évidemment, c'est expliqué par l'ancienneté. Et aussi, on peut dire, pendant ce mois de juillet, il y a eu des grèves, enfin des manifestations, etc. Par exemple, des employés municipaux à Trappes, dans le 78, des employés travailleurs, travailleuses des autoroutes du Sud, Vinci Autoroute, hein, autrement dit. Salariés, il y a eu également des salariés qui ont protesté, des salariés du restaurant Hippopotamus qui sont constamment sous pression et qui sont qui subissent la discrimination, également des heures qui sont non payées, des travailleurs et travailleuses de chez Darty également. même aussi au casino de Deauville, le groupe Barrière, donc pour des conditions de travail, des travailleurs et travailleuses sans papier, aussi de l'intérim, de Randstad, de Adeco, pour l'obtention d'attestations de concordance et de promesses d'embauche. Ça a duré quand même 2 mois. Idem au Mureau, dans les Yvelines, chez Manpower, avec 1 mois et demi de grève et d'occupation. Et pour finir, la direction a obtempéré aux revendications et s'est engagée à fournir les papiers nécessaires à la régularisation de ces travailleurs et travailleuses. Plusieurs dizaines d'agences sont concernées. Une attestation de concordance permet aux travailleurs sans papier et à la travailleuse sans papier d'être reconnus comme tels, en tout cas comme travailleurs. À Tise maintenant, c'est au mois d'août avec cette charmante localité du Doubs. Enfin, je suppute que c'est une charmante localité, à part ses maisons fleuries, etc. Mais pas par ses élus, puisque le 7 août, ceux et celles-ci, donc du PS et de l'UMP, en somme les démocrates et les républicains du CRU, main dans la main, s'en sont allés précisément. Manu Militari virait un groupe de gens du voyage, avec à l'appui une banderole. Je cite ce qu'il y avait sur la banderole, « Invasion des gens du voyage, ça suffit ». Une manif bien digne de l'extrême droite qui n'a pas attiré les foules, bien qu'il y ait quand même un peu plus de 3000 habitants à Tise et que le maire est un maire DVD. Alors pour info, et un peu pour la rigolade, sur le territoire de la commune, donc de Tise, il a été mis à jour des reliques qui attestent de l'existence d'un campement au Mésolithique. Alors j'ai trouvé ça assez drôle, donc il fallait un peu retenir évidemment les excités s'ils ont appris ça, et leur expliquer que le Mésolithique, c'est quand même 10 000 à 5 000 ans avant Jésus-Christ, que le Mésolithique situé entre le Paléolithique et le Néolithique voit des populations se fixer sur des territoires et développer ce qui allait devenir l'agriculture. Il faudrait qu'à Tise, on en prenne bien bonne note. À Mayotte, cette fois, c'est dans le département 976, le 101e département français, donc Mayotte, avec une greffe reconductible pour la colère de 35 salariés du géant Orange, qui fait dans la téléphonie, comme chacun sait. Grève qui a débuté il y avait 6 semaines à l'époque, c'était au 2 septembre, et encouragée par Sud PTT. Revendication, l'attribution de la prime de vie chère à 120 euros est promise par la direction. On applique le dicton, donc à Mayotte, le dicton populaire qui dit « chose promise, chose due ». Et puis faire un petit point aussi sur My Ferry Link, ex Sea France à Calais, donc cette SCOP qui avait été créée par la CFDT, qui avait pour l'occasion remis ses souliers sur de l'autogestion, donc une société coopérative et participative. Et on sait ce qui s'est passé. J'avais fait quelques rendus, compte rendu ici sur ce qui s'était passé depuis quelques mois. Donc il y avait eu pas mal de blocages, des manifs, des occupations par les employés et donc proprios de la SCOP. Il semblerait qu'il y ait eu une porte de sortie puisqu'un protocole a été signé le 24 août avec DFDS qui est le nouveau proprio récent de 2 navires, Eurotunnel aussi qui était un actionnaire et un liquidateur judiciaire, et aussi le syndic SNM, syndicat du Nord, je crois, pour le maritime, et qui se sont engagés donc à la reprise de 2 navires sur la traversée Calais-Douvres. 202 marins qui seront repris avec garantie sociale conservée, garantie française, c'était précisé. L'ensemble sous une nouvelle forme coopérative. Un 3e navire et une embauche de 130 à 200 personnes seraient aussi en vue pour le transport de marchandises, à condition bien sûr que de l'autre côté du Channel, la Grande-Bretagne arrête de faire des misères à la nouvelle compagnie coopérative. L'ancienne était attaquée pour concurrence déloyale et aussi ce qui avait précipité sa chute, je dirais son coulage. Donc, en résumé, 402 salariés seraient repris sur 487 avec des indemnités pour les autres. Eurotunnel, dont je rappelle, c'est l'ancien proprio, très court, hein, proprio des, dans un temps très court des navires. Jusqu'à présent, les salaires étaient versés par l'AGS, cet organisme qui remplace donc les employeurs défaillants sur ce point-là. Et puis, juste une petite note aussi à propos d'Eurotunnel qui engagera 70 personnes. Eh bien, tenez-vous bien pour la surveillance du tunnel.
Bah oui, enfin voilà. Bien.
Et alors, je m'étonne. Et alors, et on passe maintenant à Montigny-le-Bretonneux, c'est dans le 78 et ça se passe chez GEA qui excelle dans l'équipement industriel. Appel à grève, c'était au 14 septembre, CGT qui donc appelait les 200 salariés pour 2 heures de grévette contre la suppression d'une centaine d'emplois en France, dont 10% de postes à Montigny. Réorganisation, bien sûr, oblige. À Besançon, maintenant, là, c'est une souffrance au travail. C'est le thème pour engager une grève au lycée professionnel Condé depuis le 1er septembre avec son corollaire, donc les conditions de travail pourries. Méthode de management sortie tout droit de l'école de la Légion, harcèlement, etc., etc. Enfin, donc, toute la canopée existante un peu partout aujourd'hui. Outre les salariés de l'enseignement, eh bien, se sont joints à cette grève les agents territoriaux. Se sont joints également des lycéens, des lycéennes, des travailleurs également et travailleuses d'autres secteurs. Le 7 septembre, 150 personnes en rassemblement devant le lycée professionnel Condé et manifestation jusqu'au rectorat. Voilà, donc ça bouge toujours un peu partout. Et maintenant, une polyclinique dont le personnel est en grève, ben, ce n'est plus un scoop. Hein. Ça se passe en Gascogne, à Auch exactement, le 7 septembre, pour dénoncer un manque de personnel et donc exiger des embauches. On est parti pour une grève illimitée ici, et patati et patata, et la direction négociera que lorsque le travail reprendra. Et cette direction, ben, elle fait partie, ben, c'est le groupe Vitalia. À Honing, c'est dans le Nord, avec l'entreprise Augura, qui est un équipementier auto créé en 1998 pour éponger le chaume-du régional, avec des avantages évidemment. Voilà. Alors, c'était pour créer 182 postes. Eh bien, aujourd'hui, ils sont 32 salariés et encore. Chiffre qui devrait diminuer alors que l'effectif n'a jamais atteint plus de 90 personnes. Grève pour conserver l'emploi dès lors que les prochains licenciements sont pour octobre et décembre dans la production et crainte ensuite évidemment de la fermeture du site petit à petit. Et il y a eu un blocage le 10 septembre. Cette fois, c'est dans l'Ardèche, à Metz, hein, avec un Y quand même entre le E et le S, hein, je précise, à Metz, donc, avec une grève qui peut faire peur, car dans l'entreprise porte-à-feu Assa à Blois, eh bien, l'activité est dans le nom, dans la raison sociale. On y fabrique des portes coupe-feu spécialisées pour les centrales nucléaires. Alors, une restructuration qui a mis le feu, évidemment, et le 8, eh bien, c'était la grève. Dans le Val d'Ariège, c'était au 8 septembre avec une grève au CHU, enfin plutôt ils appellent ça le Shiva là-bas. C'est un centre hospitalier, je pense, intercommunal du Val d'Ariège. Eh bien, la cause est respectable, suppression de postes, la précarité, le variable d'ajustement dû à la rigueur budgétaire. Variable d'ajustement, ici, c'est la masse salariale hein, qu'il faut diminuer. Donc, on prend des gens, on les vire, on les reprend et ainsi de suite. C'est le variable d'ajustement. Justement. Et ensuite, bah, pour terminer, c'est à Moulédier, en Dordogne, avec une grève contre une fermeture envisagée chez CIB du groupe Charpente Française. L'activité est dans la raison sociale là aussi. 14 emplois menacés de disparaître, de disparition. Les 14 ouvriers ont décidé de manifester à Vars, c'est-à-dire un petit peu plus haut géographiquement, puisque c'est en Charente. Cette société a été été rachetée par Andless en avril 2015, eh bien celle-ci souhaite fermer 4 sites en France pour les profits, d'où cette montée à Vars. Alternative à la perte de l'emploi, eh bien les salariés sont prêts à réduire le temps de travail, donc pour une activité en repli, à gagner moins, à être mise au chômage partiel. La direction n'a pas accepté le deal et c'est l'incompréhension totale donc chez ces ouvriers. Et ça nous rappelle un peu Smart, hein, évidemment, ce qui a été... enfin, ça, c'est, Smart, c'est plus récent, quoi. On a beaucoup parlé sur les ondes.
Ouais. Et ben, du coup, ce qui serait cool, c'est que le jour où tu maîtriseras l'outil informatique, de nous faire une petite carte interactive de tout ça.
Ah, ben, je veux dire qu'il y a Rebellion quand même qui a fait un joli travail là-dessus, avec 750 luttes entre le mois de juin et le mois de juillet.
C'est ça. Ils avaient fait un article spécifique qui était resté en une et du coup qui relatait un petit peu toutes les grèves qu'il y avait, parce qu'on pense qu'il se passe rien l'été en France, mais quand même, quoi.
Il n'y a pas de commentaires comme j'en fais parce que ça serait vraiment très très long, quoi. Et évidemment, on ne peut pas assurer tout ici. Toutes les luttes qu'il y a en France et en Europe et de par le monde, quoi, bien sûr. Voilà.
Donc voilà, donc petite page lutte sociale qui se termine. On va se refaire une petite pause musicale. Et donc ça va être Frère Misère avec On vous aura prévenu. C'est parti.
Toujours avec Guy Lenoir, les militants de la coordination des groupes anarchistes sur le 102.2 de Radio Canu, et on va passer à un petit autre chose.
Ouais, donc voilà, donc on va vous parler d'un petit journal qui s'appelle Résistance Libertaire. Donc c'est le nouvel organe de presse de la CGA au niveau fédéral. Un premier numéro est sorti au mois de juillet-août 2015, tout premier numéro. Donc ce sera un mensuel, là comme c'était l'été, donc on a fait un espèce de double numéro. Donc voilà, un 16 pages, voilà, avec pas mal d'articles, notamment sur la marche des fiertés, sur une introduction élémentaire à l'anarcha-féminisme, sur la loi sur le renseignement, sur le communiqué qu'on avait fait sur le jugement des policiers qui avaient tué Zied Ebouna, et aussi sur une analyse sur ce qui se passe en Grèce. Donc voilà, donc il y a notamment aussi... Oui, excusez-moi, bonjour. Alors,
sauf si tu l'as déjà dit et que je n'écoutais pas, mais il y a aussi un article sur le Mexique.
Eh ben j'y viens, parce que c'est celui-là que j'allais lire. Parce que du coup, pour vous donner un petit peu envie de lire ce journal...
Enfin, de quoi je me...
Ouais, c'est ça, ouais, le mec, il croit qu'il va m'avoir et tout. Et donc du coup, voilà, donc on va vous lire cet article-là, donc sur qui s'appelle « De la situation révolutionnaire au Mexique ». Alors je m'excuse d'avance pour mon superbe accent, je ne parle pas espagnol en fait du tout. C'est une honte. Mais voilà. Mais du coup, je vais quand même vous lire l'article qui est vraiment super intéressant et ça vous aura peut-être envie de lire le reste tout en sachant que le prochain numéro de Résistance Libertaire sortira aux alentours du 22 septembre, que c'est sous format numérique, donc c'est téléchargeable gratuitement sur le site de la CGA. Mais il sera aussi disponible à la Plume Noire en édition papier parce qu'on va en tirer quand même des exemplaires. Donc n'hésitez pas à passer et peut-être à filer une petite pièce en soutien. Donc on y va sur cet article, de la situation révolutionnaire donc au Mexique, les écoles normales et l'école d'Ayotzinapa. Les écoles normales sont apparues dans les années 30 au Mexique, universités non mixtes, femmes ou hommes, elles ont pour but de former des élèves des communautés, souvent d'origine indigène, pour qu'ils puissent devenir ensuite maîtres-maîtresses au sein des communautés et participer à leur développement. Ces écoles sont rattachées à la FECSUM, la Fédération des étudiants paysans et socialistes du Mexique. Souvent très pauvres, les élèves sont très politisés et impliqués dans leur communauté. Les étudiants et étudiantes peuvent apprendre ou pratiquer les différents dialectes utilisés dans les communautés afin de pouvoir enseigner au plus grand nombre. L'école normale d'Ayotzinapa, située dans l'état du Guerrero, dans la ville de Tixla, Guerrero, est connue pour être un foyer de développement des mouvements sociaux. Les étudiants et étudiantes venus aussi des États proches y sont très engagés politiquement et revendiquent leurs droits haut et fort. Des personnages importants des révoltes sociales, des militants et des leaders de groupes armés guerrilleros, on peut citer Lucio Cabanas ou Genaro Vázquez Rojas, ont étudié à Ayotzinapa, ce qui a largement été réutilisé à mauvais escient par la propagande gouvernementale pour réprimer violemment toute révolte sous couvert de protection. Ayotzinapa est une école non mixte de garçons. Elle abrite 539 élèves, 39 professeurs et 6 agents d'entretien. Depuis sa fondation en 1926, 88 générations de professeurs ont pu donner des cours à environ 40 millions d'élèves tout au long de leur carrière. Le gouvernement mexicain tente depuis plusieurs années de limiter les possibilités d'enseignement dans les écoles normales, ne voyant pas d'un bon œil tel foyer de développement d'un esprit critique envers leur politique capitaliste. Ainsi, aujourd'hui, ne subventionne presque plus Ayotzinapa, l'école fonctionnant avec 35 pesos par jour par étudiant, c'est-à-dire 2 euros pour la nourriture, les fournitures scolaires et les vêtements des élèves. Les étudiants descendent régulièrement dans les rues pour réclamer leur droit fondamental à l'éducation dans des conditions dignes. Ils demandent l'amélioration de leurs conditions d'études, plus d'argent pour leur permettre d'étudier et de rénover les locaux de l'école dans laquelle ils dorment, étudient et vivent. Ils défendent aussi les méthodes d'apprentissage remises en cause par le gouvernement, les écoles normales ayant la particularité de mélanger apprentissage théorique et pratique, en particulier agricole, pour faciliter l'implication dans le développement et l'aide dans les communautés. Le point d'orgue des révoltes survient le 26 septembre dernier. Ça fait déjà un an, hein, c'est pas parce qu'on est 15 ou le 7, je ne sais plus. 80 étudiants de l'école normale rurale d'Ayotzinapa vont manifester contre la réforme de l'enseignement à Iguala. Ils tentaient de récolter des fonds afin de rejoindre le cortège de Mexico qui s'apprêtait à commémorer le 48e anniversaire d'un massacre d'étudiants et étudiantes perpétré par le PRI, Parti Révolutionnaire Institutionnel, de nouveau au pouvoir en ces heures sombres, le 2 octobre 68 dans la capitale mexicaine où 1500 manifestants et manifestantes n'ont jamais réapparu. Après les 29 minutes de fusillade incessante de l'armée sur la place Tlatelolco. Peut-être mal dit celui-là. Le 26 septembre, la manifestation dégénère à cause des actions violentes des forces de police. Le maire d'Iguala, José Luis Abarca, corrompu et soupçonné de lien avec le narcotrafic, tient à marquer le coup et les esprits des jeunes contestataires. Les bus de transport public que les manifestants et manifestantes avaient confisqués dans la soirée ont été pris pour cible par des policiers municipaux. Bilan 3 morts et 25 blessés. Les agents ont aussi attaqué un bus transportant les joueurs d'une équipe de football locale et un taxi faisant 3 victimes supplémentaires. Des témoins ont vu des dizaines d'étudiants et étudiantes se faire embarquer dans des camions de police fédérale, équivalent de la police nationale et municipale. 57 étudiants sont portés disparus, 14 seulement réapparaîtront, bien que 28 corps aient été découverts calcinés dans une fosse aux portes de la ville et que 2 des membres du cartel Guerrero Unido, qui auraient participé à l'enlèvement aux côtés des forces de l'ordre, affirment avoir tué 17 d'entre eux. L'identification formelle des corps reste à être prouvée et 43 étudiants sont toujours portés disparus. L'un d'entre eux a même été retrouvé, laissé pour mort, la peau et les yeux arrachés du visage. Après l'arrestation de 22 policiers, le cartel a menacé, s'il n'était pas relâché, de commencer par divulguer les noms des gens qui nous soutenaient au sein du gouvernement. La guerre a commencé. Deux points signés Guerrero Unidos. Le maire d'Iguala, José Luis Abarca, et sa femme Maria de Los Angeles Pinet avaient pris la fuite, craignant le cartel ainsi que la colère des parents d'étudiants venus attaquer la mairie à coups de cocktail Molotov. 2 jours après que le maire ait ordonné l'attaque des manifestants, ils ont tous les deux été arrêtés et inculpés en novembre dernier. Malgré la violence de leurs actes et la certitude quant à l'implication des instances policières et gouvernementales dans l'enlèvement et le massacre des étudiants, les sphères politiques tentent toujours de convaincre l'opinion publique que la situation actuelle est normale et résulte des conséquences de l'implication militante des étudiants. Ils tentent et réussissent à justifier leur acte auprès de certains et certaines par la désinformation. Depuis lors, la lutte menée par les étudiants survivants et les pères et mères de famille afin d'exiger la réapparition en vie des 43 disparus s'est transformée en l'une des plus grandes et des plus radicales mobilisations que le Mexique ait connues durant ces dernières années. Elle symbolise le rejet de la situation d'impunité totale des militaires, de la police et des cartels de la drogue couverts et protégés par les autorités. Près de 100 000 personnes ont été exécutées durant les 10 dernières années et plus de 20 000 personnes seront censées comme disparues, sans compter les nombreuses affaires de viols non résolus et impliquant souvent des militaires ou policiers. Depuis lors, les parents des disparus et les élèves de l'école d'Ayotzinapa n'ont eu de cesse de se battre pour retrouver la trace des 43 étudiants et ont appelé le mouvement social mexicain à rejeter totalement le processus électoral qui avait lieu le dimanche 7 juin dernier, élections législatives et locales au cours desquelles 500 députés, 9 gouverneurs et 900 conseils municipaux devaient être élus au Mexique. Appel visant à exprimer concrètement le rejet populaire de la corruption, de la répression et de l'exploitation mise en œuvre par toute la classe politique sur le pays et à mettre en place des conseils populaires afin que le peuple reprenne le contrôle de ses lieux de vie. D'importants mouvements de grève se sont ainsi déclarés dans différentes régions. Le 17 mars dernier, des dizaines de milliers d'ouvriers et d'ouvrières agricoles de Basse-Californie, 50 000 grévistes selon la dépêche de la Associated Press du 24 mars, même s'il n'y a pas de lien direct, cela montre bien le climat actuel des forces populaires au Mexique. Dans la ville de Oaxaca, le syndicat des instituteurs CNTE a brûlé 13 000 bulletins de vote et les urnes devant un bureau de l'Institut National Électoral. Dans la région et les états alentours, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Chiapas, ce sont des centaines de milliers de bulletins de vote qui ont été dérobés ou brûlés. La dignité du peuple ne permettra pas que soient installées les urnes électorales, car nous font défaut 43 étudiants de la normale, parce que la justice n'a pas été rendue pour les personnes assassinées, parce que nous avons des prisonniers politiques, parce qu'il n'y a pas de démocratie, parce qu'aucun parti politique ne nous représente et parce que c'est l'INE, au travers des élections, qui a mis au pouvoir des candidats politiques liés au narcotrafic, nous informait dans un communiqué le Conseil populaire de Tixla le 31 mai dernier. En réaction, ce ne sont pas moins de 40 000 militaires et hommes de la police fédérale qui ont été déployés par le gouvernement de Enrique Peña Nieto dans les états d'Oaxaca, du Chiapas, du Guerrero et du... Là, je ne vous le prononcerai pas parce que je vais faire une grosse faute. Lors de manifestations, de protestations, la répression a encore frappé fort, faisant énormément de blessés civils et étudiants et étudiantes étant toujours prises pour cible. Antonio Vivar Diaz, étudiant et militant défini comme leader par la police pendant les affrontements, est ainsi assassiné par balle pour avoir osé protester. Le président mexicain était en visite en France le 14 juillet dernier, invité d'honneur de la fête nationale par François Hollande. Au programme en tout, la vente par la France d'une vingtaine d'hélicoptères militaires de transport de troupes et la négociation d'autres accords de vente militaire encore à confirmer. On note aussi la proposition de former de nouvelles unités de police mexicaines selon un modèle issu de la gendarmerie française. Comme quoi ça s'exporte bien, il n'y a pas qu'au Mexique qui envoient les gens pour les former. Et au vu de notre efficacité à traiter les problèmes de terrorisme, il paraît. Or, selon la position commune que la France a adoptée avec les pays européens en matière d'exportation d'armement, les États membres refusent l'autorisation d'exportation si il existe un risque manifeste que la technologie ou les équipements militaires dont l'exportation est envisagée servent à la répression interne. Oui, enfin, c'est vrai que du coup, ils n'ont jamais vendu d'armes en Libye aussi, etc. Quoi. Donc, c'est assez rigolo quand même comme position commune. Quoi. Enfin, bref, tant qu'il y a des sous à se faire, de toute façon, ils vendront leur truc. Le document est signé de la main de Bernard Kouchner en 2008, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères de la France, qui assurait alors la présidence du Conseil européen, comme quoi les choses changent ou pas d'ailleurs. Sans compter que les États européens sont supposés faire preuve d'une prudence toute particulière en ce qui concerne la délivrance d'autorisation au pays ou de graves violations des droits de l'homme ont été constatées par les organismes compétents des Nations Unies. Trois petits points. Ce qui est précisément le cas avec le Mexique. Sur le papier, toutes les conditions sont donc réunies pour une suspension des exportations d'armes au Mexique. Pensez bien que ce ne sera pas le cas. Nous tenons donc à marquer notre soutien à toutes les personnes en lutte pour leurs droits au Mexique contre l'impérialisme, le capitalisme et la toute-puissance des États et classes politiques corrompues. Justice pour Ayotzinapa, justice pour tous les crimes d'État. Donc voilà pour cet article. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas endormi ou que c'est pas trop long, que ça vous donnera envie à lire les autres articles qu'il y a donc dans ce Résistance Libertaire, nouvel organe de presse de la coordination des groupes anarchistes. Et on continue à parler du Mexique pour vous dire qu'il y aura certainement très prochainement même une projection à la plume noire sur ce sujet-là. Il y a un film qui a été fait du coup par des personnes là-bas sur ce qui s'est passé à Ayotzinapa et ils proposent de passer ce film un peu partout. Donc nous, on les a contactés, donc ça devrait se passer très prochainement à la plume noire. Donc voilà, ça se passera sûrement aux alentours du 26, la semaine qui précède ou la semaine suivante, puisque le 26 est la date anniversaire du massacre. Donc voilà, et pour finir, parce que... Excusez-moi, vous voulez parler peut-être ?
Pas du tout, je voulais te demander si tu avais parlé de ce que tu vas probablement parler tout de suite.
Donc, d'accord, okay, c'est pas mal ça. Ok, ouais, pourquoi pas. Non, donc on va en profiter, vu qu'il nous reste 5 minutes, pour présenter quelques bouquins qui sont disponibles à la plume noire. Bah tiens, ça t'apprendra à la fermer pour une fois. Donc on va commencer par un petit bouquin qui s'appelle Contre les jouets sexistes. Donc il a été édité il y a un moment, ce bouquin, en 2007, mais bon, quand je vais vous lire ce qu'il y a derrière, ça n'a pas beaucoup changé malheureusement. Ça a été fait par un collectif aux éditions L'Échappée, donc je vous lis un peu ce qui raconte ce livre. Donc pourquoi trouve-t-on des pages bleues et des pages roses dans les catalogues de jouets? Pourquoi les petits garçons s'imaginent-ils journalistes, pilotes de course, cosmonautes ou aviateurs, tandis que les petites filles disent simplement rêver, trois petits points, d'une maison? Des associations antisexistes, donc Mix Cité, le collectif contre le publisexisme, prennent la parole dans cet ouvrage ambitieux et percutant qui relève l'ampleur de la discrimination sexiste que subissent les enfants et la manière dont se construisent le masculin et le féminin au travers des jouets et de leurs usages. Fruit de réflexions et d'expériences de lutte et de travail aussi bien individuel, parents, instits, éduques, que collective, animation d'une campagne contre les jouets sexistes durant la période de Noël à l'époque, ce livre propose donc des pistes pour combattre et faire reculer le sexisme au quotidien dès le plus jeune âge. Donc voilà, donc c'est un bouquin malheureusement qui est encore d'actualité, parce que vous regardez n'importe quel catalogue, vous regardez n'importe quel rayon de jouets ou de vêtements, mais il y a toujours malheureusement pour les petits gars et pour les petites filles, un rayon bleu et un rayon bien rose, donc c'est même compliqué pour ceux qui veulent acheter des fringues. Alors, gamin, de pas faire autrement que d'acheter ces couleurs-là, malheureusement. Donc voilà, deuxième petit bouquin qu'on vous propose, qui avait été présenté à la Plume Noire l'année dernière. C'est un guide à l'usage des personnes, un guide à l'usage des proches de personnes incarcérées, publié par Soledad et Associés. Il y a un petit blog, alors j'espère que s'il existe encore, hein, c'est permisdevisite.noblogs.org. Et donc le thème du bouquin, c'est que faire lorsqu'un proche est incarcéré, comment demander un permis de visite, comment se déroule un parloir, quels sont les droits des proches des personnes détenues. En France, chaque année, plus d'un demi-million de personnes se posent ces questions, et quelques autres. Réalisé par des proches de détenus, ce guide donne des pistes concrètes pour répondre aux problèmes juridiques, sociaux et pratiques posés par l'incarcération d'une personne proche. Du dépôt de linge à la lutte contre les prisons, connaître nos droits, échanger nos astuces et construire des solidarités devant les portes des prisons et par-dessus les murs. Voilà à quoi sert ce guide. Donc voilà, vous pouvez trouver ça aussi à la Plume Noire. Vas-y, je vais enchaîner. Voilà, on avait un petit peu pas mal critiqué il y a quelques mois quand on avait osé nous-mêmes critiquer la rédaction de Charlie Hebdo. Alors, on va vous parler d'un bouquin qui s'appelle Même pas drôle, qui est pourtant assez vieux, hein, qui date de 2010, enfin assez vieux du coup de 5 ans. Hein. Donc c'était par rapport à la nomination notamment l'ancien patron de Charlie Hebdo, Philippe Val. Donc la nomination de l'ex-patron de Charlie Hebdo à la direction de France Inter fut l'apothéose d'une décennie de réalignement idéologique. Entre 99 et 2009, Philippe Val a en effet reconsidéré nombre de ses points de vue, passant de la gauche altermondialiste à la récitation de psaumes conservateurs. Pour accompagner ce réaménagement, il a mis au point une méthode consistant à disqualifier ses éventuels contradicteurs par des imputations extravagantes. L'éditorialiste qui déclarait naguère qu'à chaque fois que l'on recule, à chaque fois qu'on est prudent à l'intérieur de nos états de droit, on perd l'estime de ceux qui nous ont fait reculer, qui nous font reculer, car devant eux, nous piétinons nos propres valeurs. C'est ainsi gagné assez d'estime à droite pour être promu à la direction d'une radio d'État sous le règne de Nicolas Sarkozy. Et ce n'est même pas drôle. Donc voilà, un petit bouquin aux éditions Libertalia. Vous pouvez passer aussi à la Plume. Un petit bouquin rigolo, enfin rigolo, du coup c'est plus sous forme de petite histoire de roman, ça s'appelle Tue ton patron. On a tous rêvé de le faire et moi le... faut pas le dire ça, il y aura des problèmes, tout ça. Donc c'est Jean-Pierre Levaret, donc il y a deux tomes, hein, Tue ton patron et Tue ton patron saison 2. Je vous lis aussi le petit résumé. On a tous rêvé un jour, une nuit, de se débarrasser de son patron, mais ce n'est pas si facile, alors si on s'y mettait tous ensemble... C'est ce que les ouvriers d'une usine fabriquant des composants électroniques pour le secteur automobile mettent en œuvre lorsque le patron veut fermer la boîte. Cela se passe très vite, en quelques heures, à la faveur d'une réunion pour annoncer les licenciements. Mais pour que ce soit rapide et efficace, il faut avoir tout bien préparé. Donc voilà, hein, Tue ton patron, premier du genre, hein, raconter l'acte individuel d'un chômeur. Pour ce deuxième opus, c'est le tous ensemble qui prévaut. Plus efficace, moins noir, à voir et à lire, imaginer un monde sans patron. Voilà, le rêve. Donc voilà.
Livre que je recommande pleinement, de Jean-Pierre Levaret, qui a aussi écrit Putain d'usine.
Exactement. On avait passé d'ailleurs, je crois qu'il y a un reportage aussi qui avait été fait, un documentaire sur le même sujet, enfin du coup issu du livre. Donc pareil, hein, édition Libertaria, c'est des petits prix. Après, c'est toujours un prix, hein, mais là, les deux derniers sont à 8 euros. Le guide des proches des personnes incarcérées, c'est à prix libre, il me semble. Et le truc sur les jouets sexistes, c'est 12 euros. Allez, j'en fais un tout petit dernier. Allez, c'est Contre le masculinisme du collectif Stop Mascu, guide d'autodéfense intellectuelle. Des hommes divorcés, perchés en haut d'une grue, qui se disent lésés par une justice qui leur confisquerait leurs enfants. des associations défendant les hommes battus et criant à la manipulation des chiffres sur les violences conjugales, des groupes de parole destinés à des hommes en perte de repères et en quête d'une nouvelle identité masculine. Droit des pères, violence et discrimination à l'encontre des hommes, crise de la masculinité, tels sont les thèmes chers aux masculinistes. Associations, psychologues, militants, figures médiatiques ou simples quidam, ils sont un certain nombre à affirmer qu'aujourd'hui ce sont les hommes qui souffrent, qui sont victimes des femmes qui auraient pris le pouvoir, des féministes qui seraient allées trop loin, bref, d'une société matriarcale. Adeptes de la victimisation et de l'inversion des rôles, les masculinistes militent pour la défense de l'ordre patriarcal et des privilèges masculins. Leur idéologie s'inscrit dans un contexte politique réactionnaire où l'on voit se renouveler les formes de la domination masculine. Voilà, ce livre a été conçu comme un outil pour analyser et contrer ce mouvement. C'est pareil, c'est 8 euros, paf, 21 heures, j'ai fini mon petit truc, voilà. Donc juste pour vous rappeler, j'ai encore du coup 50 secondes, hein, si on ne veut pas être en retard. Donc voilà, vous rappelez les permanences de la Plume Noire, mercredi 17h-19h, samedi 15h-19h, notre site internet cga-lyon.waton.org, la page Facebook, et si vous voulez nous contacter, c'est groupe-lyon@c-g-a.org. Et donc on se retrouve la semaine prochaine, toujours à 20h pour Idée Noire, donc avec sûrement une émission partagée spéciale féministe avec la camarade qui revient sur Lyon pour l'émission, et sûrement avec aussi des interviews donc, qui ont été faites aux rencontres internationales à Vintimille le week-end dernier.
Voilà. Donc on vous donne rendez-vous mercredi prochain sur le 102.2 de Radio Canu à 20h. Merci et puis bonne semaine.
Et n'oubliez surtout pas de venir dimanche à 16h pour la présentation
des... Oui, pardon, j'ai oublié de le rappeler. Voilà. Donc 16h, Plume Noire, envoyez un mail si vous voulez plus de renseignements, mais envoyez ça sur la liste publique des sympathisants et sympathisantes ce soir ou demain matin.
Tout à fait.
Et voilà notre générique pour terminer.